elle est présentée par Claire Flechel.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron sur le Tour de France. Aujourd'hui, le chef de l'État sera ce soir à l'arrivée de l'étape du jour, le contre-la-montre à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il présidera ensuite une cérémonie hommage au maillot jaune. Et puis le lendemain, il va suivre l'étape Tarbes-Tourmalet, une présence du président qui contraste avec l'an dernier où il avait annulé sa participation à une étape du Tour de France à cause de l'affaire Benalla, la première affaire d'une série de difficultés politiques débouchant sur la crise des Gilets jaunes. Aujourd'hui, le chef de l'État parie donc sur un apaisement et une normalisation du contexte politique. Stéphane Robert.
Avec son retour sur la grande boucle, c'est comme si Emmanuel Macron reprenait une vie normale, entre guillemets, comme s'il voulait mettre un terme à une année particulièrement difficile, dont le premier accro avait été l'été dernier, l'affaire Benalla. L'affaire Benalla démarre le 18 juillet 2018 avec les révélations du journal Le Monde et elle prend très vite une telle ampleur que le président annule sa participation à une étape du Tour de France prévue 5 jours plus tard, le 23 juillet. S'ensuit, fin août, la démission de Nicolas Hulot, puis celle du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, début octobre. Et enfin, le 17 novembre, démarre la crise des Gilets jaunes, qui, durant plusieurs mois, fait trembler le pouvoir exécutif et le chef de l'État. Depuis, il y a eu le grand débat, les élections européennes, plutôt réussies pour Emmanuel Macron, et un regain de popularité dans les enquêtes d'opinion. La nouvelle crise qui menaçait avec les révélations de Mediapart sur François de Rugy a été rapidement endiguée et circonscrite avec la démission du ministre. Dès lors, même s'il y a eu quelques sifflets le 14 juillet sur les Champs-Élysées en direction du chef de l'État et qu'il n'est pas à l'abri de quelques prises à partie un peu musclées, le contexte politique apparaît tout de même aujourd'hui plus apaisé. Emmanuel Macron s'autorise donc à retourner au contact de la foule et des Français en se rendant sur le Tour de France. Pour la symbolique, c'est comme s'il se réconciliait avec le jaune. Pas avec le gilet, mais au moins avec le maillot.
Stéphane Robert. Le projet de loi sera annoncé d'ici la fin de l'année, mais si les préconisations rendues hier par Jean-Paul Delevoye sont entendues, on peut déjà se préparer. Beaucoup devront travailler plus longtemps, puisque le taux plein sera fixé à 64 ans en 2025 et repoussé ensuite au fur et à mesure du temps en fonction de l'espérance de vie. Une profession s'estime particulièrement lésée parmi les professions libérales, ce sont les avocats. Cette réforme signifie pour eux un taux de cotisation multiplié par 2, passant de 14 à 28%. Ce qui provoquera une hausse de leur charge de 20% environ. Alors faut-il s'attendre à une massive mobilisation de la profession ? La réponse est oui, selon Basile Adair, vice-bâtonnier du barreau de Paris.
Ah bah ça je peux vous le promettre, parce que ce sont des gens qui travaillent plus que d'autres. On en est très content, hein. On ne s'en plaint pas, mais si vous voulez, c'est un travail de dur labeur. La vie d'avocat est une vie très astreignante et qui suppose beaucoup d'énergie, beaucoup de renoncements, beaucoup de sacrifices. Donc je peux vous assurer, quelles que soient leurs idées politiques, quelle que soit leur générosité, il faut que vous sachiez aussi que les avocats ont beaucoup d'activités pro bono, toute l'aide juridictionnelle, tout ce qu'on assure, la défense pénale d'urgence et tout ça, on est tout juste indemnisé. Ce sont des missions qu'on remplit parfaitement depuis des lustres. Donc quand on va leur dire, écoutez maintenant, il va falloir cotiser 2 fois plus, et parce que, en fait, au bout du compte, vous ne pourrez pas avoir ce qu'on vous avait promis. Il y en a certains qui cotisent depuis 30 ans. Que ce qu'on vous a promis que vous aurez le jour où vous prendrez votre retraite, vous aurez sans doute un tiers de moins. Ben, je peux vous assurer qu'il y a personne ne sera content, hein. Même les plus généreux et les plus altruistes parmi nous. Je suis sûr qu'il y aura une très grande mobilisation. C'est quand même difficile à accepter.
Basile Adair, vice-bâtonnier du barreau de Paris, répondait à Mathieu Laurent. Plus d'un an après l'entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données, le fameux RGPD, les internautes français sont loin d'être protégés des mauvaises pratiques concernant leurs données personnelles. La CNIL a publié hier au journal officiel des recommandations à destination des éditeurs de sites internet pour rappeler que les pratiques passées qui ressemblent parfois à du pillage des données personnelles des internautes devaient cesser. Ce qui est en jeu, Abdellah Kaledrissi, c'est bien cette question du consentement des internautes à être pistés lorsqu'ils visitent un site internet.
En naviguant sur la toile, les internautes français se sont habitués à voir apparaître en bas de leur écran un message les informant de l'utilisation par le site de cookies, des traceurs qui peuvent enregistrer l'activité du visiteur, souvent à des fins de ciblage publicitaire. Parfois, il est possible de s'y opposer, mais trop souvent, le site ne laisse pas le choix. Des pratiques qui étaient admises jusqu'ici, mais qui sont désormais dans le viseur des autorités. Thomas Dautieu est le directeur de la conformité à la CNIL.
Jusqu'ici, vous étiez informé que l'éditeur du site voulait mettre un cookie dans votre navigateur et puis le simple fait de continuer la navigation sur le site valait consentement. Avec dorénavant les exigences renforcées du RGPD, eh bien ce n'est plus possible. Il faut que réellement l'internaute soit parfaitement informé de l'existence de ces cookies, de leur finalité et que l'internaute coche une case ou qu'il déplace un curseur pour manifester ce consentement.
Certains sites refusent aussi tout simplement l'accès aux internautes tant qu'ils n'ont pas accepté les traceurs publicitaires, ce qui est formellement interdit par le RGPD, qui oblige les sites à prouver qu'ils ont bien recueilli le consentement des internautes avant de les pister, sous peine de sanctions qui peuvent, selon la gravité des manquements, se chiffrer en millions d'euros. Mais la CNIL ne brandit pas encore les sanctions et préfère la pédagogie. La phase de dialogue avec les éditeurs de sites internet devrait prendre environ un an. Cela fait déjà un an que le RGPD est entré en vigueur.
Abdelhak El Idrissi. L'Iran assure ce matin n'avoir perdu aucun drone dans le détroit d'Ormuz, contrairement à ce qu'assurent les États-Unis. Le ministre iranien des Affaires étrangères ajoute que Washington a dû abattre un de ses propres drones par erreur. 85 morts et 300 blessés. 25 ans après, l'Argentine se souvient. Le matin du 18 juillet 1994, une bombe pulvérisait l'immeuble abritant les institutions juives du pays. Depuis, deux procès ont eu lieu. Le premier s'est terminé sans condamnation, faute de preuves. Le second a condamné le juge du premier procès ainsi que des membres des renseignements et de la police pour corruption et dissimulation. Aujourd'hui, 25 ans après, donc, on ne sait toujours pas qui est responsable de l'attentat. Les familles des victimes attendent toujours des réponses. Le reportage de Caroline Vic, notre correspondante à Buenos Aires.
Au 633 de la rue Pasteur, dans la capitale argentine, 85 bougies sont allumées devant ce qui était la mutuelle juive, devenue aujourd'hui un centre social et culturel. Les yeux fixés sur les noms des victimes peints sur un mur. Luciana, 44 ans, professeure de droit de l'homme à l'université de Buenos Aires.
Pour moi, c'est très émouvant. J'ai voulu venir par respect pour les victimes. La mémoire, la vérité et la justice ne se construisent pas en oubliant, mais en essayant d'avoir les victimes toujours présentes pour qu'on ne vive plus jamais ça. Il faut aussi lutter contre l'immunité. Ça s'est quand même passé il y a un quart de siècle. C'est énorme.
Plus loin, Juan Carlos, 70 ans, ancien gardien d'immeuble dans le quartier, il se souvient.
Il y a eu une explosion énorme. On aurait dit que c'était la fin du monde. Moi, je vivais à un kilomètre d'ici. J'ai très bien entendu la détonation. C'était affreux. Ça me fait de la peine qu'on ne sache rien. Il n'y a même pas une personne interrogée. Il est difficile de consoler les familles des victimes, les gens qui ont perdu un enfant. C'est terrible. Nous tous, les Argentins, nous voulons savoir ce qui s'est passé.
Attentat suicide, piste iranienne, piste syrienne, d'où venaient les explosifs et la voiture piégée. Après une enquête manipulée, les familles des 85 victimes ne savent toujours rien. Pourtant, le président Macri a accusé le Hezbollah hier d'être responsable de l'attentat et l'a officiellement reconnu organisation terroriste, marquant ainsi la fin de la neutralité argentine dans le conflit du Moyen-Orient.
Caroline Vic, correspondante de France Culture à Buenos Aires. Le temps de ce vendredi s'annonce pluvieux en Bretagne et ensoleillé au sud. Ce matin, les températures sont comprises entre 12 et 17 degrés. Les éditions de ce matin ont été préparées avec Maxime Vanier, Benjamin Ducy et François-Charles Domergue.